BW. Vue d'Allemagne.
Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
Je me réjouis de cette nomination et je veux gagner. Olaf Scholz, actuel ministre fédéral des Finances allemand, est depuis le début de la semaine officiellement déjà candidat à la chancellerie pour les élections de septembre l'année prochaine. Qui est ce vieux routard de la politique allemande? Quelle chance a-t-il? C'est le sujet à la une de Vue d'Allemagne cette semaine. Et puis dans 5 minutes, nous serons en Inde, le coronavirus dans un des plus grands bidonvilles de la planète. Et pourtant, on a réussi à le contenir, vous le verrez. Mais d'abord donc, l'actu en Allemagne. Willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Los geht's, c'est parti. Les deux dirigeants du Parti social-démocrate allemand avec des masques rouges, suivis du nouveau candidat du SPD avec un masque blanc. Mise en scène bien préparée pour le parti de centre-gauche lundi en début de semaine en Allemagne. Une conférence de presse pour annoncer donc la candidature d'Olaf Scholz au poste de chancelier pour les prochaines élections. Une élection prévue, je vous le disais, pour septembre 2021 qui marquera un tournant en Allemagne. Vous le savez peut-être, après 4 mandats, Angela Merkel ne se représentera pas. Changement de visage à la tête de la chancellerie prévu donc après 16 ans de pouvoir pour Angela Merkel. Il reste donc plus d'un an d'ici là, 13 mois avant ces élections. Mais déjà donc, le SPD a présenté son candidat. Alors qui est-il ? Olaf Scholz a 62 ans, il est membre du SPD allemand depuis 1975. Le SPD, ce sont les sociaux-démocrates, le centre-gauche, le plus vieux parti d'Allemagne, un des plus grands en nombre d'adhérents aussi, et qui gouverne en coalition en ce moment avec Angela Merkel et son parti, la CDU. Et donc, Olaf Scholz, en politique depuis plus de 40 ans, est bien connu des Allemands, député, plusieurs fois ministre fédéral, président du SPD par le passé aussi. Son nom et son visage ne sont donc une découverte pour personne. Un vieux routard de la politique, comme on dirait familièrement, et comme confirme la docteure Eileen Keller, qui travaille à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg et suit notamment la politique allemande.
Je pense qu'on peut dire ça. C'est quelqu'un qui est bien connu du public allemand depuis longtemps. En fait, presque depuis les années 2000, il a eu des fonctions en tant que ministre. Il était ministre du Travail, il est ministre des finances, il est vice-chancelier, donc il est le premier représentant politique d'Angela Merkel. Il était maire de la seconde ville dans le nord de l'Allemagne, de Hambourg. Donc là aussi, il était assez populaire. Il a une longue carrière politique au sein du Parti social-démocrate. Donc quelqu'un qui est bien connu depuis longtemps. Des Allemands et qui est aussi apprécié pour son travail en tant que ministère. En fait, c'est 57% des Allemands qui sont satisfaits avec son travail. Donc, c'est quelqu'un qui, en tant que personnalité, est bien perçu en Allemagne.
Dans les sondages d'opinion, son nom revient effectivement régulièrement. Son style semble plaire. Un style que certains qualifient proche d'Angela Merkel, parfois. Assez froid, diraient ceux qui n'aiment pas. Posé, diront les autres. Plutôt discret, assez peu habitué aux grandes déclarations choc. Un style et des idées politiques très centristes à droite du SPD. Depuis des années, l'actuel ministre des Finances se bat pour que les comptes de l'Allemagne restent dans le vert. Pas de déficit, c'est son credo, au grand dam de l'aile gauche de son parti, souvent. Ministre du Travail sous Angela Merkel en 2007, c'est lui aussi qui fera passer l'âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans. Un homme de centre-gauche, mais conservateur donc, dit Eileen Keller.
Je pense que c'est exactement ça. Plutôt centre-gauche, mais modéré, qui assume les choix politiques qui ont été faits dans le passé. Aussi des politiques, disons, plus libérales, notamment au milieu des années 2000, avec la libéralisation du marché du travail allemand. Donc c'est quelqu'un au sein du parti qui vient plutôt du centre, qui défend en fait les réformes qui ont été faites dans le passé, mais qui a quand même un côté, disons, de profil de gauche, notamment avec l'introduction du salaire minimum en Allemagne, qui était beaucoup poussé par lui aussi dans le passé. Donc un profil modérateur qui colle plus avec les Allemands en général qu'avec son propre parti.
Son propre parti, justement, le SPD, est en pleine crise. Elle dure depuis des années déjà. S'il est en effet le plus vieux parti allemand, parti historique, si on peut encore dire ainsi, parti encore dans la coalition au pouvoir aujourd'hui, le SPD voit ses résultats baisser à chaque élection. Il avait recueilli 20,5% des voix en 2017 lors du dernier Bundestagswahl, score historiquement bas. Aujourd'hui, dans les sondages, il est encore plus bas, autour de 15%. C'est plus de 35% pour la CDU, par exemple. Ça donne une idée du fossé entre les deux. Le SPD, c'est donc qu'avant de gagner, il faut remonter ses scores déjà et se relancer, sortir de la crise. C'est ce qu'explique Isabelle Bourgeois, qui est spécialiste de l'Allemagne et animatrice de Tandem Europe, plateforme de débat sur la construction européenne.
Les sociaux-démocrates cherchent leur voie. Ils se cherchent une nouvelle identité. Ils l'ont perdue. Au début, lors de leur recréation, après la guerre, ils étaient un parti de centre-gauche, c'est-à-dire qu'ils ont tourné le dos aux marxistes. Et ils ont dit, ce qui compte pour pouvoir créer un modèle social, c'est une économie qui fonctionne bien. Et leur base électorale, c'était des ouvriers qualifiés, c'était toutes ces personnes qui faisaient tourner l'économie. Mais au fil du temps, l'économie a changé. Il y a eu des mutations, ce ne sont plus les mêmes métiers. Donc le SPD a un petit peu perdu sa base, ne serait-ce que par vieillissement aussi. Et le SPD a eu ensuite un grand moment de doute, c'est lors de la chute du mur et lors de l'unité allemande, où il a failli se scinder en deux. Une extrême gauche qui aurait très marxiste, qui aurait voulu que la RDA continue sous une forme un petit peu démocratisée, et puis l'autre qui a dit non, ce n'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est l'économie sociale de marché, c'est-à-dire il faut d'abord que l'économie fonctionne pour que le social puisse être financé. Et depuis, cette scission-là, ce doute-là, au sein du parti, reste très très vivace, au point même que, et c'est le doute qu'on peut émettre quant à la candidature de Olaf Scholz, au point que le SPD se demande si d'ici 4-5 ans, il ne va pas fusionner avec la gauche néo-marxiste Die Linke. Donc le SPD est en train de se chercher. Olaf Scholz, lui, a une excellente image. Effectivement, il est vice-chancelier. C'est le numéro 2 après Angela Merkel. Mais le problème, c'est un parti qui ne sait plus où il va, s'il va à droite, s'il va à gauche, s'il reste au centre ou s'il se radicalise à l'extrême gauche.
L'idée de présenter son candidat en premier donc cette semaine et bien avant le vote est donc peut-être une stratégie pour tenter de regagner la confiance et les voix des électeurs allemands avant les élections de septembre 2021 pour le SPD. D'autant qu'en ce moment, Olaf Scholz a l'image d'un bon gestionnaire économique en pleine crise sanitaire. Il présentait dès le mois de mars dernier un plan de relance de 550 milliards d'euros pour faire face aux conséquences économiques de la Covid-19, parlant, et c'était étonnant chez lui d'entendre de tels propos, d'un bazooka du gouvernement fédéral face à la crise. Cette bonne image, il veut en profiter aujourd'hui et assure publiquement que le SPD profitera de sa candidature.
Nous pensons que nous pouvons parvenir à obtenir clairement plus de 20% et que nous pouvons améliorer considérablement notre résultat.
Il n'empêche que loin des micros, Olaf Scholz sait que le combat sera dur. Très peu l'imagine sérieusement chancelier aujourd'hui. Les plus optimistes espèrent à une remontée des scores du SPD, qui pourrait alors peut-être tenter de s'allier aux Verts en pleine expansion et à l'extrême gauche pour former un gouvernement. Mais si cela semble possible sur le papier, les idées des uns et des autres sont pourtant parfois difficilement compatibles au niveau politique. Et puis, nous sommes à 13 mois des élections, des candidatures se sont dessinées à droite pour succéder à Angela Merkel, mais rien n'est encore décidé officiellement. Ce sera à l'automne, au plus tôt. Impossible de savoir comment réagiront donc les électeurs. Et puis encore, personne ne peut dire non plus comment se porteront la société et l'économie allemande avec la crise sanitaire toujours en cours. Et tous observent aussi, dit Grünen, les Verts qui bénéficient des sondages en hausse, mais n'ont encore pas de candidat officiellement non plus. Beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, donc d'ici septembre 2021. Une chose est sûre, si l'actuel ministre des Finances, Olaf Scholz, arrive avec sa candidature à rassembler plus de 20% des voix pour le SPD en 2021, il aura déjà remporté une victoire. Pour la chancellerie, c'est une autre histoire. Du du rap originaire d'Inde et du bidonville de Dharavi pour lancer cette deuxième partie de Vue d'Allemagne. Partie internationale qui nous emmène justement dans le deuxième pays le plus peuplé de la planète, pays très touché par la pandémie de coronavirus. Avec ses 1,3 milliard d'habitants, le pays, l'Inde, enregistrait en début de semaine plus de 45 000 morts et de plus de 2 millions de contaminations. Des contaminations dures à éviter, notamment quand on vit dans un bidonville, donc entassé les uns sur les autres. L'un des plus grands bidonvilles de la planète, Dharavi, à Bombay, compte 1 million d'habitants sur 2 km carrés. Mais il fait face depuis le mois d'avril, résultat notamment d'une mobilisation exceptionnelle de la société civile. Histoire positive de coronavirus, comptée aujourd'hui par Charlotte Muller.
1 million de personnes, ensemble sur un bout de terre, des égouts ouverts et puants, pauvreté et faim. C'est ça, la triste réalité au plus grand bidonville d'Asie, à Dharavi, à Mumbai. Slumdog Millionaire, le film probablement le plus connu de l'Inde, se joue ici. Une histoire de réussite d'un pauvre garçon qui gagne 1 million d'euros. Ces derniers mois, pendant la pandémie, les habitants de Dharavi ont donc écrit leur propre happy end. Le premier cas de Covid-19 est signalé début avril. Dans la population, on craint alors la propagation rapide du virus, mais de façon assez surprenante, les choses ont resté là, comme explique aujourd'hui Krishna Tambave, en marchant des produits en cuir à Dharavi.
Parfois jusqu'à 15 travailleurs migrants vivent ici dans une seule pièce. Même pendant le couvre-feu, ils devaient quitter la pièce pour aller chercher de la nourriture ou pour se laver dans des toilettes publiques. Jusqu'à 1000 personnes partagent une toilette ici. Début mai, les premiers trains ont enfin pu démarrer et beaucoup sont rentrés dans leur village. Le nombre de cas de coronavirus a donc également diminué.
En effet, les taux d'infection ont baissé rapidement ici. Une autre raison pour la propagation relativement faible du virus, les organisations humanitaires et les autorités publiques. Elles se sont chargées de la distribution des masques dans la bidonville. Le nettoyage municipal a d'ailleurs mis en place des stations de quarantaine, les premiers centres d'accueil pour les malades, offrant les premiers soins et des repas chauds. Mais ce sont aussi et avant tout les médecins du quartier qui ont pris les choses en main. Après avoir convaincu les autorités publiques de la réouverture de leurs cabinets médicaux, ils ont fourni un travail irréprochable, munis des vêtements de protection et d'hydroxychloroquine. Le docteur Anil Pashnekar.
On a fait du porte-à-porte, on a soigné les personnes malades, on a utilisé des haut-parleurs pour expliquer aux habitants pourquoi il faut porter un masque, qu'il faut se laver les mains. Croyez-moi, cela a beaucoup aidé.
Les médecins ont pris la température et ont mesuré les taux d'oxygène dans le sang des centaines de milliers de personnes. Ils ont admis les cas les plus critiques aux hôpitaux alentours. Si avec 1 million d'habitants à Dharavi, seulement 80 personnes sont mortes à cause du Covid-19, c'est grâce à eux. Depuis 2 mois déjà, les chiffres des cas positifs de Covid-19 baissent continuellement. En happy end, les nouvelles infections ont baissé de 1200 en mai à 270 en fin juin. Début août, on a enregistré encore 76 cas actifs, 2254 personnes se sont rétablies. Mais ce n'est pas encore la fin d'alerte. Les chiffres en Inde continuent globalement d'augmenter. Et pourtant, Dharavi est devenu le parfait exemple, le modèle à succès de l'Inde. Dans la capitale, les autorités publiques vont adopter les méthodes du bilan V pour mieux contrôler la propagation du virus. Détecter les cas positifs, les suivre, faire des tests et soigner. Le principe est simple. Aller à la rencontre des pauvres au lieu de les stigmatiser.
Charlotte Muller avec Zilke Dietrich de nos confrères de l'ARD à New Delhi. Merci à toutes les deux pour leur travail. Et puis sachez encore à ce sujet qu'une étude publiée récemment indique que la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay semblent avoir eu le coronavirus. Les experts estiment que le nombre d'infections sans symptômes serait très élevé là-bas. Voilà encore qui expliquerait une partie de cette histoire plutôt positive et qui, on le souhaite aux habitants du bidonville, ne s'aggravera pas dans les prochaines semaines. C'est avec ce reportage que se termine Vue d'Allemagne pour aujourd'hui. Vous retrouvez ce magazine en podcast à partager et à commenter sur notre site internet, la page Facebook de la DW Afrique et certaines plateformes de podcast aussi. La semaine prochaine, c'est Anne Letouzé qui sera à ce micro. D'ici là, je vous souhaite alles Gute, portez-vous bien. Bis bald. À très bientôt. Tschüss.